Alors, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de vous interroger sur le sujet après le message de dimanche passé, mais je suis quasi certain que peu d'entre vous auraient misé un seul centime sur le fait que la joie était une discipline spirituelle. Je me trompe? Objectivement, hein? Et pourtant, la joie est une nécessité de la vie avec Dieu. Nous avons donc, on peut en tirer cette conclusion, sans doute grandement sous-estimé la joie jusqu'ici. Alors quand on lit la Bible, du premier livre jusqu'au dernier, Ancien Testament, Nouveau Testament, le thème de la joie revient en fait fréquemment. Et dans les écrits historiques, donc qui relatent l'histoire d'Israël par exemple, et dans les évangiles, et dans les psaumes, la joie est omniprésente dans la Bible. Alors donc, j'ai eu envie aussi aujourd'hui de quand même asseoir cette dimension de la joie sur certains textes bibliques. Il y en avait des centaines, j'ai dû faire un tri. Donc, j'aimerais qu'on prenne un premier texte qui se trouve dans le livre de Néhémie. Alors, je vais peut-être, avant que vous lisiez, vous ne lisez pas. Interdit. Pas maintenant. Je vais vous mettre le contexte historique où vous n'allez rien comprendre. Donc, ici, en fait, cette situation que décrit ce texte se passe après le retour d'un contingent juif de la déportation à Babylone. Donc, la ville de Jérusalem a été détruite, son enceinte détruite par les armées babyloniennes, une septantaine d'années plus tôt. Le temple de Jérusalem a été détruit. Et donc, une cinquantaine d'années plus tard, un contingent juif revient. Et 16 ans encore plus tard, le temple de Jérusalem est reconstruit. Et puis Néhémie est envoyé comme gouverneur de la ville pour reconstruire la muraille extérieure de la ville. Et en reconstruisant le temple, les Juifs vont retrouver des rouleaux contenant la loi de Moïse qu'ils avaient perdue. Et Esdras, qui est un scribe, donc un enseignant de la Torah, qui est présent à Jérusalem à ce moment-là, et Néhémie, le gouverneur de la ville, vont lire, simplement lire, la loi de Moïse au peuple, et après la lecture, à la fin de la lecture, le peuple va commencer à pleurer. On est un peu loin de la joie quand même. Mais ils commencent à pleurer parce qu'ils se prennent sans doute compte, tout simplement, de ce qu'ils ont vécu jusqu'ici, et que surtout, ils prennent conscience qu'ils avaient désobéi à Dieu jusqu'ici. Et c'est au moment où le peuple commence vraiment à pleurer, toutes les larmes de leur cœur, ou de son cœur, que Néhémie dit ceci. Gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites, donc les prêtres, qui donnaient les explications, ont dit à l'ensemble du peuple, ce jour est un jour saint pour l'Éternel votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté, allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces, douces, hein, pas fortes, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. C'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. C'est ce que dit Néhémie, c'est pas moi. Et il le dit à une foule en pleurs devant la prise de conscience qu'ils ont été jusqu'ici à des années-lumière de la volonté de Dieu. Alors que leur dit-il et pourquoi leur dit-il cela? Bien, il leur dit que la joie est une force, ça n'est donc pas qu'un sentiment, c'est une force, et qu'ils ont besoin de cette force, qu'ils ne peuvent pas s'en passer de cette force. Parce qu'on s'en passe beaucoup, mais trop souvent, nous. Et qu'en l'absence de cette force, il y a une conséquence, hein. En l'absence de cette joie, c'est en fait une forme de faiblesse qui va s'installer. Et que cette joie doit donc se manifester concrètement au quotidien dans nos vies. Dallas Willard, un penseur chrétien, avait très bien compris l'enjeu de tout ça quand il écrit, et je vous lis doucement ce qu'il écrit, voilà, Dallas Willard, il est décédé il n'y a pas longtemps. Voilà ce qu'il dit, l'échec à atteindre une vie profondément satisfaisante a toujours pour effet de nous faire envisager le péché comme une bonne chose. C'est là que réside toute la force de la tentation. Normalement, vaincre la tentation est plus facile si nous sommes plutôt heureux dans la vie. Nous couper des joies, ça c'est important ce qu'il dit, hein, nous couper des joies et des plaisirs associés à nos vies corporelles et à l'existence sociale parce que celle-ci serait considérée comme non spirituelle, peut donc nous mener en fait à un effet d'affaiblissement dans nos efforts à faire ce qui est bien. Je résume sa pensée parce que c'est peut-être pas très clair. Pour beaucoup de chrétiens, être spirituel, c'est se couper de la vie. Un chrétien ne fait pas ça, un chrétien ne dit pas ça, un chrétien ne manifeste pas ça. Un chrétien, ça, vous vous rappelez le dimanche, hein, j'en ai ri, on en a un peu ri ensemble, mais la joie grave du Seigneur. Il faut, comme s'il fallait tirer la tête pour être spirituel. Hein? Un chrétien, ça ne se permet pas ceci. Alors que Willard dit, si on ne vit pas, si on ne considère pas tout ce que Dieu nous donne comme bon et qu'on n'en profite pas, la tentation aura forcément plus d'emprise. Si aimer ma femme, c'est de l'aimer à distance, à 3 km 500, à ne pas rentrer profondément en communion avec elle, essayer vraiment de la comprendre, de la connaître, ben c'est clair, toutes les autres femmes vont m'attirer. Si je ne vis rien dans mon couple, je vais aller voir ailleurs. Comprenez? Si on est systématiquement sur une ligne de restriction, ah ben Dieu, comme il nous aime, il nous a dit qu'on ne pouvait pas vivre, on devait se lamenter, ben c'est clair que tout ce que Dieu ne veut pas va nous attirer. Ah, c'est plus clair? Bon. Donc, si nous n'apprenons pas de Dieu que tout est bon et que profiter de tous les moments que la vie nous offre est la base du projet de Dieu pour chacun d'entre nous, nous risquons de nous abstenir de vivre sous prétexte d'être spirituel. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Et dès lors, on va offrir le flanc à toutes les tentations, émotions négatives ou comportements superficiels. On va être en colère. On va être amer parce qu'on ne profite pas de la vie. Là, si on dit que la vie est un cadeau, il faudrait que ça le devienne dans les faits, en fait, et qu'on le vive pleinement comme un cadeau. Voici donc une clé pour demeurer spirituellement en pleine forme, n'est-ce pas? Nous devons aménager nos vies afin que la tentation nous semble la moins attrayante possible. On a souvent dit que l'histoire de Blanche-Neige était très misogyne. Hein, on l'a fait passer pour une nunuche. Ben, c'est pas faux, hein, parce que la tentation, on peut pas dire qu'elle soit très attirante. Hein. Moi, la vieille aurait pris sa pomme et tout le bazar avec. Hein. J'ai garde ta pomme pour toi, fille, que t'as une tête qui me revient pas. Donc, il faut vraiment aménager nos vies afin que la tentation nous semble la moins attrayante possible. Alors, vous comprenez peut-être maintenant pourquoi Néhémie a encouragé son peuple à faire la fête et à célébrer cette nouvelle vie que Dieu leur donnait. C'était un nouveau commencement pour le peuple juif à l'époque. Et il ne l'a pas fait, c'est à noter, en programmant une retraite silencieuse et une semaine de jeûne et de prière. Ce n'est pas ce qu'il leur a dit de faire. Ce n'était pas le moment. Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, ils avaient pleuré, c'est bon, et un temps pour se réjouir. C'était le temps des réjouissances. La reconnaissez, Sœur Emmanuelle. Alors si je vous dis que Sœur Emmanuelle n'a jamais fait aucun geste déplacé, ou prononcer aucune parole grossière alors qu'elle était coincée dans un bouchon sur le chemin du travail au volant de sa voiture. Vous allez me croire. On n'imagine pas dire, espèce d'imbécile, va m'en faire, aucune. Ben, voilà. On ne l'imagine pas. Pourquoi est-ce qu'on ne l'imagine pas? À moins que vous l'imaginiez, ouais, bon, elle faisait semblant, moi je suis certain qu'au volant, elle s'énerve comme tout le monde. Ben, je pense qu'elle ne faisait pas ça, elle n'a jamais fait ça. Je pense que personnellement, je le crois sans l'avoir connu personnellement, tout simplement parce que je sais ou nous savons que ce genre de choses n'avait plus d'attrait pour elle. Sa vie montrait qu'elle était sur un autre chemin que celui-là. Elle n'était plus sur cette ancienne voie, sur cet ancien fonctionnement, mais bien sur la nouvelle voie. Tout simplement parce que la joie du Seigneur donne de la force, et son boulot n'était pas spécialement simple, elle était aussi surexposée à la souffrance du monde. Hein. Donc, j'y viendrai tout à l'heure. Donc je crois qu'il est plus que temps, aussi étrange que cela puisse paraître au premier abord, de considérer la joie sérieusement. Il faut sérieusement que nous devenions joyeux. Alors chacun d'entre nous peut devenir une personne joyeuse. Si. Avec l'aide de Dieu, c'est vraiment possible. Les auteurs bibliques n'en auraient pas fait un commandement. Rappelez-vous Paul, hein. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Il n'en aurait pas fait un commandement si ce n'était pas possible et accessible à tous. Il n'y a pas de spécialiste de la joie. Nous sommes tous appelés à devenir des hommes et des femmes remplis de joie. Mais, c'est un petit mais quand même, la joie est une compétence qui s'apprend. Ça s'apprend. C'est pas inné. Hein? Vous devez assumer la responsabilité de votre joie. Ce n'est pas la responsabilité de vos amis, de vos parents, de votre conjoint, de vos enfants ou de votre patron, ça on imagine, de vous rendre joyeux. C'est votre responsabilité. Personne n'est appelé à le faire à votre place, à vous rendre joyeux. C'est à vous à apprendre à le devenir. Alors pour certains d'entre nous, je ne suis pas naïf, ce sera moins évident que pour d'autres. Et ce, pour différentes raisons. Il y a des personnes qui ont la joie altérée, dont la joie est altérée, et certains ont du mal à se réjouir. Mais ça s'apprend. Et donc, si c'est votre cas, et c'est possible, vous allez devoir, mais comme souvent dans la vie, vous battre pour ça, pour apprendre la joie. Et ça en vaut la peine parce que tout simplement, ça change la vie. Ça change vraiment la vie. Et les personnes qui veulent apprendre la joie ont besoin de pratiquer en particulier la discipline spirituelle de la célébration.
Ouais.
Ben, ce qu'ont fait les Juifs, en fait. C'est la raison pour laquelle il y a une telle... On ne se rend pas compte de ça quand on lit l'Ancien Testament, mais c'est la raison pour laquelle il y a une telle emphase mise sur les jours de fête dans l'Ancien Testament. Dieu a installé, a dit à son peuple, à tel jour tu feras telle fête pour te rappeler que je suis Dieu. Et c'est pas pour faire décoratif qu'il a fait ça. C'est pour qu'il soit obligé de se réjouir au moins pendant cette fête. De se rappeler que parce qu'il est dans leur vie, parce qu'il est dans leur âme, il faut faire la fête, il faut se réjouir. C'est donc une discipline et c'est la raison du calendrier liturgique juif, des fêtes juives, fêtes auxquelles, je rappelle, Jésus assistait dans l'Évangile. Il ne ratait jamais une fête donnée par Dieu à son peuple. Donc, à l'origine, l'intention de Dieu, en les inscrivant au calendrier de son peuple, était que ce temps, ces temps de célébration, deviennent des expériences de transformation au même titre, par exemple, que la méditation de la parole de Dieu ou le jeûne. C'est aussi une pratique qu'il faut apprendre, qu'il faut mettre en œuvre. Alors, ce qui lie, mais vous l'aurez compris, si intimement la joie à la célébration, c'est bien évidemment le parfum de plaisir qui s'en dégage. Quand on prend le texte de Néhémie, allez manger, allez boire des liqueurs doux, donc du vin, quoi, pour le dire autrement, réjouissez-vous, il y a quand même, j'espère, une notion de plaisir qui commence à monter. Non, bah oui. Si je vous dis on va se faire une bouffe ou si on allait faire une remontée avec, enfin Geoffrey choisirait la randonnée avec tout le pactage, mais la plupart d'entre nous disent bon ben Geoffrey tu vas en montagne et monte sur ta conneries, là et nous on t'attend au truc en bas, et on se tape une bouffe. La plupart des gens diront ben on prend la bouffe, on est d'accord. Donc ce sont des moments où l'on se réunit avec des gens qu'on aime, ce sont des temps où l'on mange, où l'on boit avec modération et où l'on danse même. Vous vous rendez compte? Même danser. Alors qu'il y a quand même des chrétiens qui m'ont dit que la danse était le dernier acte avant l'accouplement. Véridique. Tu danses un slow, tu couches avec la gonzesse, quoi. J'aurais un solide rendement à une époque de ma vie si ça avait été vrai. Donc ces célébrations, c'est important de le préciser, deviennent spirituelles, parce qu'on peut taper la cloche sans que Dieu soit là. Ces célébrations deviennent spirituelles lorsqu'elles permettent de réfléchir sur le Dieu merveilleux que nous avons et de prendre conscience de tous les merveilleux dons dont il nous fait. Je pense la plupart, par exemple, c'est un bête exemple qui me vient, mais la plupart d'entre nous, nous prions avant de manger. Je sais pas pour vous, mais enfin, c'est vrai que souvent quand tu es à la maison, c'est Jessica qui prie et c'est toujours la même chose depuis qu'elle est née en fait. C'est la même prière, on n'a strictement rien à foutre, mais on peut prier, de rendre grâce à Dieu, de dire merci Seigneur pour cette nourriture, mais en ne pensant même pas à Dieu. On le fait comme, allez bon, il faut bien le faire, parce qu'on ne sait jamais, si on ne le fait pas, il va peut-être nous punir, on va être malade la nuit, enfin, soit. Alors que c'est un moment, trois fois par jour, trois repas par jour en général, c'est un moment de communion et de joie intense, de dire, mais il a mis des choses sur la table, quoi. Pour moi, pour nous. Donc, c'est ce qu'expriment les mots de Néhémie que nous avons lu tout à l'heure. Ils expriment l'esprit de la célébration, que Dieu est au milieu de nous. D'ailleurs, ça c'est pour l'anecdote, mais c'est intéressant. En anglais, le mot « holiday », vacances, vient des deux mots « holy days », jour saint ou jour sanctifié. Alors maintenant, ce n'est plus que des congés, les gens n'en ont plus rien à foutre, ils sont bien contents des congés. Mais à l'origine, tous ces congés, c'était des congés qui étaient consacrés à Dieu, le dimanche, si on a encore le dimanche, comme congé pour la plupart des gens, pas tous, et c'est de notre faute, on a laissé faire, eh bien c'était aussi pour que nous puissions nous réjouir de la présence de Dieu. Logiquement, aujourd'hui, vous devriez, d'une manière particulière, vous réjouir de la présence de Dieu. C'est raté. Mais ça s'apprend. Non, vraiment, ça s'apprend. Alors, on envisage souvent la discipline comme le fait de s'abstenir de tout plaisir. Ben si, il y a certains, les ascètes, l'ascétisme, c'est se priver de tout. garder son corps. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais vraiment, enfin, on mange plus, quoi. On mange plus, on boit plus, on boit de l'eau, on se tape dans la forêt, dans une cabane. Voilà. Certains disent, j'ai cet appel-là de Dieu. Moi, j'aurais cet appel. Je dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me maudisse autant, quoi? Ça, c'est personnel. Donc, le fait de s'abstenir de tout plaisir, il semble que ce ne soit pas toujours le cas. On peut jeûner, hein, s'empêcher de manger, on peut jeûner en regardant plus la télé, on peut jeûner en faisant plusieurs trucs, et on peut s'abstenir. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut être spirituel en ne s'abstenant pas. Et au demeurant, l'objectif de toute discipline spirituelle, je le répète, doit être la transformation personnelle et pas la pratique de la discipline en question. Et je vais prendre un autre texte, enfin, c'est toujours le même texte tout à l'heure, mais rien que le verset 10, c'est intéressant. Allez manger, il leur dit, Néhémie, hein, manger des viandes grasses. Alors, quand on lit ça, on se dit, bah oui, c'est sympa, il devrait aller bouffer de la viande. Et, hein, à l'époque, la viande, c'était quand même. Mais, et on a vérifié ça ce matin, parce que ça m'est venu un peu ce matin. Je n'étais pas su, et puis ma petite femme a vérifié pour moi. À qui étaient destinées les viandes grasses dans l'Ancien Testament? À Dieu. La viande grasse, elle était destinée uniquement à Dieu, à personne d'autre. C'est une offrande faite à Dieu. Et qu'est-ce que Néhémie leur dit? Participer à ce qui est uniquement à destination de Dieu. Il partage ce qui lui est personnel. Allez manger ce que Dieu, enfin entre guillemets, hein, il ne mange pas, hein, on sait bien, mais ce que Dieu mange, allez manger les sacrifices qu'on offre à Dieu. Vous êtes chez vous, chez lui. C'est ça que ça veut dire. Pensez un peu à David quand il a faim avec ses compagnons qui rentrent dans le tabernacle et il prend les pains de proposition adressés à Dieu. Il les prend, il les mange. Pourquoi? Parce que David sait qu'il est chez lui. C'est un enfant de Dieu. Et quand un enfant est chez son père, il se sert dans la maison de son père. Pas le mien. Hein. Normalement, je plaisante, hein, c'est moi aussi. Mais... Donc c'est fort ce qu'il leur dit. Hein. Ils ne se contentent pas de dire « Allez, réjouissez-vous », il dit « Mangez de la viande grasse, ce qui est réservé à Dieu ». Ça vous est réservé aussi. Donc manger de la viande, ça ne va pas plaire aux véganes, peut donc être aussi spirituel que de jeûner. Se réjouir, manger, ça peut être aussi spirituel, ça dépend comment on le vit, hein, que jeûner. Alors qu'on s'attendrait à ce qu'un prophète nous demande de manger des choux de Bruxelles accompagnés d'huile de foie de morue pour qu'on s'endurcisse spirituellement. Mais pas du tout, pas du tout. Là, il nous invite au contraire chez Burger King. Hein? Ça aurait été marrant que le temple soit sponsorisé par Burger King. D'ailleurs, et c'est par expérience que je parle, il n'y a rien de pire qu'avoir un asset à table quand il y a de la bouffe sur la table. On en a eu. Hein? Parce qu'on en connaît, Daniel Bourguet, c'est un asset. Hein? Mais quand vous mangez avec lui, on a eu l'occasion d'être en retraite dans des habits avec lui, et en général, dans les monastères, on mange bien et beaucoup. En tout cas, ils sont très prolixes en nourriture. Ben, Daniel, il mange comme un moineau, mais il se réjouit. Ça se voit dans sa grande barbe. Il a un sourire qui fait trois fois le tour de sa tête quand il voit les autres manger. Il adore ça. Donc, c'est pas un casseur de joie, Daniel. Lui, il mange très peu, mais quand il voit les autres s'empiffrer parce qu'il trouve ça bon, lui, comme il loue Dieu de tout ce que Dieu donne, il se réjouit. Par contre, il y en a un autre que je ne sauterai pas, on le fait manger. Lui, il ne mange pas, hein, mais il va bien vous faire comprendre que vous êtes une pauvre merde spirituelle, hein, parce que vous mangez autant ou parce que vous mangez normalement. Donc, il n'y a rien de pire que d'avoir ce genre de personne à table quand vous préparez un repas pour vous réjouir avec vos amis, par exemple. Enfin, ce que les amis n'en ont peut-être pas. Hein. Alors, à ce stade, je pense qu'il faut préciser quelque chose d'important. La vraie célébration n'a rien à voir avec l'hédonisme. Mais peut-être faut-il redire ce qu'est l'hédonisme. C'est peut-être un terme à coucher dehors qui ne vous dit rien. Laissons donc la parole à notre philosophe de service, André Comte Sponville. L'hédonisme, toute doctrine qui fait du plaisir, dont hédoné en grec, le souverain bien, le but de la vie ou le principe de la morale. Alors je vais vous résumer sa pensée. Jouir pour jouir et pour faire jouir sans faire de mal à personne. Michel Onfray, c'est un hédoniste. Il se dit hédoniste de par le mouvement philosophique qui porte ce nom et qui remonte aux Grecs, hein, à l'ancienne Grèce. Jouir pour jouir et pour faire jouir sans faire de mal à personne. C'est ça, l'hédonisme. L'hédonisme est donc la recherche du plaisir pour le plaisir et rien d'autre. C'est une demande continue et toujours plus grande de gratification personnelle. Dans l'hédonisme, la joie produite hier, forcément par définition, n'existe déjà plus aujourd'hui. Il va falloir la recréer ou inventer autre chose pour jouir. En fait, dans le modèle hédoniste, notre capacité à la joie diminue. Car ce plaisir-là, fugace et souvent superficiel, on peut s'en lasser. Moi, je me rappelle, il y a des années, de certains week-ends gastronomiques où j'aurais donné tout ce que j'avais pour manger une salade. J'en avais ras-le-bol de manger dans les meilleurs restaurants du coin. On se lasse du plaisir pour le plaisir. Et finalement, ça ne procure plus aucune joie. Donc, ce n'est pas de la même joie dont on parle. La célébration dont Néhémie et tant d'autres textes bibliques nous parlent n'a bien entendu rien de commun avec un quelconque hédonisme. Et c'est là que certains d'entre vous le regrettent déjà, n'est-ce pas? Donc, quand nous célébrons, nous exerçons notre capacité à voir et à ressentir la bonté de Dieu dans le plus simple de ses dons, comme les choux de Bruxelles, par exemple. Vous pouvez remplacer par le légume que vous détestez, s'il y en a un. Il y a moyen, ou les chitons, il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, ou les salsifis. Hein, chouchou, salsifis. Donc nous sommes capables de nous réjouir aujourd'hui de quelque chose que nous n'avions même pas remarqué hier. Ça, c'est la joie en Dieu. Regardez par la fenêtre d'un hôpital où l'on visite un ami et remarquez un écureuil en train de manger une noisette. Alors, je sais bien que c'est idiot, mais moi, un écureuil qui mange une noisette, moi, ça me remplit de joie. Je dis, ça va pas si mal finalement. Et c'est là que le gars dans son lit dit, bah putain, il parle pour toi. Il était déjà là la veille, l'écureuil, mais je ne l'avais pas remarqué. La joie ouvre des perspectives nouvelles, insoupçonnées, et notre capacité à la joie augmente. Et c'est là que nous comprenons que la joie appelle la joie. Plus on apprend la joie, plus on a de la joie. Maintenant, vous allez me dire, la question se pose, comment fait-on pour apprendre la joie? Je prends un autre texte, verset 24 du psaume 118. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Le premier pas à faire, c'est maintenant. Maintenant, au moment où je parle. Le psalmiste dit, c'est ici et maintenant la journée que l'Éternel, que Dieu a faite. Il ne dit pas, hier était la journée que Dieu a faite. Oh, comme j'étais heureux hier. Hein? Ni demain sera la journée que Dieu fera. Comme je serai bien demain. En attendant, je mords sur ma chic, quoi. Il ne dit pas ça. Hein? Aujourd'hui, avec tous ses défauts, est le grand jour de célébration, celui où l'on danse en sortant de son bain ou de sa douche. C'est aujourd'hui, indépendamment des circonstances, c'est aujourd'hui que la joie doit être présente. Nous avons tous, plus ou moins, été éduqués et nous vivons tous comme si la joie devait venir un jour lorsque les circonstances auront changé. Nous sommes d'accord, hein? Aujourd'hui, je suis dans la merde, donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais me réjouir. Eh bien, si! Nous allons à l'école et nous nous disons que nous serons heureux quand nous serons diplômés. Nous sommes célibataires et nous sommes convaincus que nous serons heureux quand nous serons mariés. Malheureux. Malheureux, profitez. Nous nous marions et nous prenons la décision que nous serons heureux lorsqu'il y aura des enfants dans la maison. Nous faisons des enfants et décidons que nous serons heureux lorsqu'ils seront adultes. Ils seront partis de la maison. Puis un jour, ils le font, ils s'en vont. Et nous nous disons que nous étions plus heureux quand ils étaient encore à la maison. On est à frapper, hein, non? Il faut nous frapper. Enfin, pas moi, hein, je suis trop fragile. Hein. Ce n'est pas le moment, mais... C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Parce que c'est un jour que la mort du Christ est rachetée. Si nous devons connaître la joie, la vraie, celle de Dieu, ça ne pourra se faire que ce jour-là. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Un jour à la fois, aujourd'hui. Par exemple, il y a des gens qui hurlent devant la porte de l'église, je reste dans la joie, pour l'instant. Mais il ne faut pas que ça dure. Je suis certain qu'il y a une question quand même, normalement, hein, j'anticipe un peu vos questions parce que je lis dans votre âme. Hein. Je suis certain qu'il y a une question que vous posez quand même, encore. Tout ça, c'est très bien. Et on aimerait y croire, mais comment fait-on pour enlacer, saisir la joie au milieu de toute la souffrance du monde? Et est-ce que c'est juste d'être dans la joie alors que le monde est rempli de haine, de violence et d'injustice? La réponse est oui. Parce que c'est justement ici que nous faisons la découverte la plus inattendue, la plus importante. Ce sont souvent les personnes les plus proches de la souffrance qui possèdent la joie la plus forte. Quand vous souffrez et que vous êtes en présence de quelqu'un qui est habité par la joie de Dieu, ça fait un bien fou, mes amis. Elle faisait un bien fou à tous ces gens. C'est comme la chaleur du soleil qui réchauffe en hiver, même si on n'a plus d'hiver. Hein. Car la joie que l'on trouve en Dieu et qu'un être peut partager au travers de ses attitudes, de ses gestes, de ses paroles, n'est pas une joie extravagante qui s'impose et écrase les autres. « Ça va, tout va bien !» Non, c'est pas ça. Hein. Mais une joie douce et profonde qui rencontre le cœur de l'autre et place en lui à nouveau une étincelle de vie divine. Ça rallume quelque chose en nous. Les amis de Mère Teresa disent que plutôt que de se laisser submerger par la souffrance présente autour d'elle, elle aurait pu, hein, elle reflétait la joie à chaque seconde de son ministère. Un officier britannique emprisonné au camp de concentration de Flossenbürg avec Dietrich Bonhoeffer disait de lui « Bonhoeffer me semblait toujours répandre autour de lui une atmosphère de bonheur et de joie à propos du plus insignifiant incident et une profonde gratitude du simple fait qu'il était en vie. Quand il, ça je me rappelle dans sa correspondance à sa fiancée, quand il recevait à manger, il mangeait une fois par jour et c'était camp de concentration, quoi. Vous imaginez ce qu'on mangeait, quoi. Enfin, je ne pouvais même pas imaginer. Ils n'avaient quasi rien à bouffer et c'était vraiment pas très bon. Hein. Souvent, comme il y avait des gens anémiés qui étaient plus mal en point physiquement que lui, il donnait aux autres. Et il rendait grâce. Hein. Et les gens témoignent qu'ils avaient l'impression que Dieu était en train d'aller manger avec eux. Pour le peu qu'ils recevaient, dans un camp de concentration, ils rendaient grâce. Ils disaient merci à Dieu, quoi, avec un sourire jusqu'à ses oreilles. On peut dire qu'il était cinglé. Être cinglé comme ça, moi je veux bien, moi je prends. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi je prends. Je pense qu'il y a quelque chose à déduire de tout ça. Et ça, c'est terriblement important de comprendre, parce que ça, c'est la clé, à mon avis. Hein. La joie semble ne reposer que sur ceux ayant consacré leur vie à quelque chose de plus grand que leur propre bonheur. J'ai redire ça. La joie semble ne reposer que sur ceux ayant consacré leur vie à quelque chose de plus grand que leur propre bonheur. Tant que c'est votre bonheur à vous que vous cherchez, vous ne serez jamais dans la joie comme Dieu la conçoit. Jamais. Jamais. C'est le côté terrible, hein, je sais bien. Mais... Recherchez le bonheur des autres. Servir Dieu, quelque chose de plus grand, quelqu'un de plus grand que vous. Moi, j'ai une fois dit, ça peut paraître prétentieux, mais c'est moi ça, hein, ça n'habite que moi. Quelqu'un m'a dit, mais comment tout ce que tu peux faire, toutes les capacités que tu as, pourquoi tu es emmerdé, excusez-moi, hein, pasteur, franchement. Et je lui ai dit un truc très simple qui m'est sorti spontanément à l'époque, mais je m'en souviens. Hein, heureusement, merci Seigneur, j'ai de la mémoire. Je lui ai dit textuellement, parce que je n'aurais jamais pu vivre une vie non consacrée à quelque chose de plus grand que moi. C'est tout. Quitte à servir, parce que c'est ce que je fais, hein, quitte à servir, moi, il faut que je serve un truc qui me dépasse. Voilà. Mais en le servant lui, on sert les autres. Hein. Vous ne pouvez pas servir Dieu en restant dans le sens. Vous ne servez personne. Quand Dieu, tu veux me servir, sers les autres. Ne cherche pas ton bonheur en toi-même ni pour toi-même. Trouve et cherche ton bonheur en moi et dans ce que tu apportes aux autres. La joie ne repose que sur ceux ayant consacré leur vie à quelque chose de plus grand que leur propre bonheur. Alors c'est clair que cette définition-là, ça, c'est plus visible dans la vie des gens ou de gens extraordinaires comme les martyrs de l'histoire de l'Église. et ceux et celles passés à la postérité comme étant des saints, pas seulement en théorie. Parce que saints, nous le sommes tous. Hein. Quelqu'un qui est en Christ est un saint. Mais un des saints qui ne touche pas une quille. Hein. Donc ici, on parle de saints qui ont vécu vraiment une vie sanctifiée. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible et que ça peut devenir visible aussi dans la vie de gens ordinaires comme vous et moi. Parce que tous ces gens qui ont vécu une vie extraordinaire, comme Mère Teresa, ce sont des gens ordinaires. Ils sont devenus extraordinaires parce qu'ils ont découvert quelque chose de plus grand qu'eux. D'ailleurs, l'un, dans l'absolu, l'un des tests de la joie authentique est sa compatibilité avec la douleur. La joie dans ce monde est toujours la joie, malgré ce quelque chose qui tend à venir la perturber. Les tuiles viennent, ma joie ne bouge pas. Parce qu'elle est pas, elle réside pas en moi, elle réside en Dieu. La joie, comme le dit si bien le théologien Carbart, pour ceux qui connaissent, la joie est un néanmoins de défi à toute amertume et ressentiment. J'ai mal au genou, néanmoins, ma joie demeure. On vient de me diagnostiquer une maladie grave. Ma joie demeure néanmoins. C'est ça que veut dire Barthes. Pas pour ça donc qu'il n'y a pas de tuiles, hein, qu'il n'y a pas de moments difficiles. On est sur cette terre. C'est forcément, il y a des moments qui ça va pas être drôle. On va avoir mal quelque part, on va avoir des tuiles, on va devoir régler des problèmes. Néanmoins de défis. Ben, ce que je vis, c'est réel. Hein. Je ne vais pas faire semblant que ça n'existe pas. Ce n'est pas du déni de réalité, hein, la joie. Je ferai avec, mais ça ne bougera pas ma joie. Parce que ce n'est pas ça l'important. Mes amis, si nous ne nous réjouissons pas aujourd'hui, je crois qu'il faut être clair, hein, nous ne nous réjouirons pas du tout. Et voilà. Et si nous attendons que les conditions soient parfaites, nous serons encore en train d'attendre que ce jour vienne, le jour de notre mort. On sera encore en train d'attendre que les conditions parfaites pour être heureux et joyeux soient là. Si nous devons nous réjouir, ce doit être aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est ce jour-là que l'Éternel a fait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.